Et bonjour, ici Sens en direct de la journée de la radio avec Martin Touzeau et comme invité notre présidente Maë Burla. Le thème de la journée de la radio est alors paysage de radio. Mais il faut savoir quand même, derrière les coulisses, que ce sujet a été trusté par des géographes. C'est parce qu'un pan entier des sciences sociales a pris intérêt à étudier le son et ce qu'ils appellent les paysages sonores. C'est ce qu'on appelle plus vulgairement les sound studies. En sciences sociales, on peut diversifier les objets d'étude et le son fait aussi partie des différents objets d'études dont on a pris de plus en plus conscience depuis qu'on a développé les moyens de le percevoir ou de les retrouver. Le son fait aussi partie d'un tableau social au même titre que souvent ce qui est vu, ce qui est perçu, et donc parce que c'est quelque chose qui a été vécu par les acteurs sociaux. Le son est en fait propre à une chose. En cela, c'est alors un signe. Mais il est un signe dans le sens qu'il porte aussi une signification, d'autant plus si ces significations sont sociales. Et si le son est significatif, il est significatif pour un groupe, pour une classe qui comprend cet imaginaire. Or, sachant que notre société est traversée par des divisions de classe, des divisions sociales, genrées ou raciales, il y a des sons qui sont propres à des classes, ou en tout cas des sons qui peuvent être en jeu de lutte, et c'est cela que nous allons voir avec cet extrait des Cloches de la Terre de Alain Corbin, lu par Martin Touzeau.
Que la convention puis le directoire aient au lendemain de la réouverture des lieux de culte imposé le silence des cloches s'inscrit dans la logique républicaine. Accorder le monopole de l'annonce, de l'injonction de rassemblement, de la scansion des rythmes temporels, de l'expression de la liesse et de la solennité des messages sonores au pouvoir civil, résulte du désir d'émanciper la vie municipale de l'emprise sensuelle et des injonctions sonores du pouvoir ecclésiastique.
Ce que Corbin désigne dans ce livre, c'est la lutte des campagnes face au pouvoir républicain contre l'enlèvement des cloches au moment de la Révolution. Parce que celles-ci sont indicatives d'une identité propre et d'une intention qui sont souvent significatives pour une région, tout simplement parce que chaque cloche dépend de certaines pratiques pour certaines campagnes ou pour tout simplement indiquer des choses à des voyageurs.
L'une des fonctions de la cloche est d'orienter le voyageur et le navigateur à l'intérieur de son espace sonore. Les usages locaux en montagne, comme le long des côtes, mais aussi dans certaines régions accidentées en bordure de forêt et parfois même en pays de plaine, enregistrent cette mission de sauvegarde. Les moines du Grand Saint-Bernard utilisent une cloche située à 40 minutes du couvent et destinée aux voyageurs attardés. Dans les montagnes d'Auvergne, il est d'usage de sonner les cloches de 5 à 6 heures du soir jusqu'à 11 heures ou minuit lorsque la campagne est couverte de neige.
Et les cloches sonnent.
Bon, c'est un peu emmêlé avec les bobines, mais ce qu'il faut retenir de ces lectures, c'est que sonner les cloches est un temps immuable qui participe en fait à un imaginaire de la campagne, un imaginaire campanaire, dit Alain Corbin. Tandis qu'en ville, surtout au XIXe siècle, on voit surtout la révolution sonore, ne serait-ce que parce que depuis des siècles, il y a tout simplement la foule. La foule, c'est le bruit incontrôlé, c'est le bruit qui est désordonné, c'est l'annonce du chaos pour les pouvoirs publics. C'est aussi tout simplement une manifestation affective qui de temps en temps peut mener au chaos public. Mais au XIXe siècle, on voit de plus en plus ce qu'on peut appeler la dématérialisation progressive, que selon Olivier Stern. Que cela soit la cheminée du train, ou tout simplement maintenant la voie électronique dans le centre commercial ou les bips du métro, le son a droit aussi à sa révolution anonyme, dans le sens qu'il est actionné mécaniquement, dans le sens que sa production n'est plus humaine mais mécanique, et donc qu'il y a un enjeu de pouvoir. Qui produit le son ? Qu'est-ce que ce son signifie ? Parce que quand on rentre dans le métro, c'est un son limite de mouton. Vous pouvez rentrer dans cet espace et vous n'avez pas le droit de rentrer juste ensuite. Donc ce qui veut dire que cette révolution anonyme conduit aux mêmes affres de la modernité, c'est-à-dire la lutte sociale pour la production de sons et la maîtrise des sons. Mais là, on voit tout un pan des sound studies qui étudie le son en tant que signe de quelque chose. Il y a un autre pan entier qui décide de prendre le son en tant qu'espace propre dans lequel il se passe ses propres luttes. Parce que tout simplement, faire du bruit, c'est quand même un moyen d'occuper l'espace, c'est un moyen d'être dans l'espace et c'est aussi un moyen d'affirmer ce qu'est cet espace. Et c'est pour ça que nous t'avons invité, Maë. Bonjour.
Bonjour, Arthur.
Parce qu'en dehors d'être la présidente de Transistor, tu es géographe, tu es étudiante en sciences sociales.
Ouais, il faut bien.
Eh bien, en fait, en quoi consiste ton travail sur les sound studies, Maë ?
Alors bon, moi, mon travail, je suis en Master 1, donc il ne faut pas non plus exagérer les choses. Mais oui, je voudrais travailler en fait sur le lien entre géographie et son. C'est un lien qui a déjà été fait hein, depuis les années 60-70. Et moi, plus particulièrement, j'aimerais bien travailler sur la notion de son et identité. Comment le son, en fait... retranscrit l'identité d'un lieu, d'un quartier, d'une population et potentiellement aussi est porteur des luttes de cette population pour s'approprier l'espace.
Est-ce que c'est ce qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'écologie sonore ?
Alors, bon, peut-être que pour repartir un peu sur les bases des sound studies, t'as fait un bon résumé, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui en sont ressorties. En gros, dans les années 70, je crois que c'est ça, 77, il a été traduit en français. C'est le musicien d'abord Murray Schafer qui a écrit le livre Paysage sonore et qui a vraiment introduit cette idée de sound studies avec donc l'idée que le son était porteur d'enjeux sociétaux. Ça, c'est ce que tu as bien dit, et aussi l'idée que le son aujourd'hui a complètement changé de nature par rapport au son qu'on pouvait entendre au 19e siècle. Je fais un petit topo sur ça et après t'inquiète, je réponds à ta question. J'en profite, j'ai le micro. Et donc en fait oui, on est passé d'un paysage qu'il appelle Lofi au paysage Hi-Fi. C'est-à-dire un paysage au début qui faisait par exemple le son des cloches, des événements qui arrivaient et qui repartaient en termes de son, alors que avec la révolution industrielle, etc., l'arrivée des voitures, notamment en ville, on arrive dans un environnement sonore en fait, qui a changé de nature. On a un son continu, une sorte de brouhaha continu, sans qu'on arrive vraiment à distinguer, comme on pouvait le faire avant, en fait, les événements sonores qui surgissent et qui se retirent. Et du coup, déjà, il part de ce constat-là dans la question des paysages sonores. Ce qui fait qu'en fait, les débuts des sound studies se sont intéressés en fait, à la question du bruit et des nuisances. Et ce sont les premiers travaux qui ont été faits en géographie, c'est-à-dire faire des cartes du bruit dans toutes les métropoles. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour savoir quels sont les endroits en fait, en ville où le niveau sonore est trop élevé et produit trop de nuisances pour les acteurs sociaux. Sauf que après, il y a très peu de choses qui ont été produites justement sur les questions plus les perceptions en fait plus qualitatives du son et le son en fait qui aurait le même rôle que le visuel dans l'espace, c'est-à-dire les gens peuvent occuper l'espace en étant présents tout simplement dans l'espace public en étant voilà sur un banc dehors à discuter, mais en fait justement ils produisent aussi du son et c'est aussi le son qui peut être un enjeu de la ville moderne. Je crois que j'ai perdu ta question en route.
C'est pas grave. Résultat, moi aussi, ça me complète des choses que j'ignorais. Mais donc là, je rebondis sur mes propres centres d'intérêt. Mais
pardon.
Est-ce que non, pas de souci. Mais est-ce que d'une certaine façon, alors gérer les sons au sein de l'espace, c'est un autre moyen d'une certaine façon de gérer des foules
Alors oui. Alors, il y a des travaux, ça c'est intéressant, je ne sais plus, bon, ça m'a fait rebondir, mais oui, on parlait d'écologie sonore aussi, c'est ça. Donc oui, en fait, il y a des choses qui ont été faites pour gérer les foules, même de manière très 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 concrète. Je pense notamment à ce que la SNCF a mis en place, je crois que c'est à la gare de, je vais dire une bêtise, mais je dirais la gare de Lyon à Paris. En fait, ils ont mis en place un système parce qu'ils se sont rendus compte que les voyageurs qui arrivaient toujours d'un train pour prendre une correspondance vers un obscur TER, je crois, loupaient toujours leur correspondance parce que c'était très compliqué, il y avait plusieurs halls, etc. Ils ont mis en place en fait un système d'indicatif sonore à la base de bips presque imperceptibles qui en fait dirigeait le regard des voyageurs vers les bons panneaux pour se diriger. Et en fait, il y a toute une étude qui a été faite et ça marche très bien. Et donc là, vraiment, on a l'idée de contrôler les foules.
Mais en même temps, c'est pas un peu perdre une sorte de naturalité du son ?
Bah, c'est ça qui est dangereux, justement, je pense, avec... Après, bon, là, c'est que mon avis, hein. Avec l'idée d'écologie sonore, ça, c'est... Voilà, c'est Murray Schafer qui a aussi introduit cette idée-là. Mais lui, il faut pas oublier que, voilà, c'est un musicien, c'est un compositeur. Il a vraiment, lui, cette idée de... Il faut préserver l'environnement sonore à un truc, quelque chose de naturel, d'un peu... préserver de tout. Sauf que, en fait, c'est aussi partir du principe que les voitures, aujourd'hui, les nuisances, ça ne fait pas partie de l'environnement sonore naturel des villes. Alors qu'en fait, si, il faut, en sciences sociales, on ne va pas pouvoir dire, ça, c'est pas beau, du coup, on l'enlève. Non, ça, c'est un point de vue de musicien, de compositeur. Du coup, je pense que la question de dénaturer l'environnement sonore est un peu délicate. En tout cas, si on prend en termes de géographie, on ne va sans doute pas l'évoquer comme ça. On va évoquer les nuisances, donc les choses qui sont plutôt désagréables aux personnes, qui les gênent, mais on va pas parler de nature, c'est dangereux.
Mais là, j'y repense, je rebondis juste, mais sachant qu'en plus, toi-même, tu t'intéresses plutôt pas mal à la musique, d'après ce que j'ai compris ou que tu en fais, sachant que la musique, c'est un moyen de jouer avec le son de façon gratuite, est-ce que alors essayer de, on va dire, écouter de la musique facilement dans des salles, c'est quand même un privilège pour les gens qui en ont les moyens. Est-ce que par exemple un moyen d'essayer de mieux gérer le son au sein de l'espace social, ça peut être par exemple essayer de développer la musique comme par exemple foutre des pianos dans des gares. Est-ce que ça te semble être quelque chose de pertinent pour l'écologie sonore ou pas ?
Pour l'écologie sonore, je sais pas. L'écologie sonore, c'est pas vraiment ça. Là, on partirait plutôt sur le design sonore, en fait. Voilà, on est dans l'urbanisme, c'est tout ce qu'on essaie de mettre en place avec même les sonneries de tram un peu bizarres. Vous savez, quand il y a des musiques, vous êtes déjà allé à Brest et écoutez les sons qu'il y a dans les trams. C'est absolument incroyable. Limite, ils nous mettent des piou-piou d'oiseaux. J'ai tendance à penser personnellement que le problème de ces choses-là qui sont du design sonore, mettre des pianos dans les gares, encore, c'est intéressant parce qu'on laisse les personnes s'approprier vraiment l'espace. Par contre, aller mettre des indicatifs sonores ou essayer de faire, je sais pas, une cour intérieure où le son serait préservé, etc., c'est un peu décider de l'environnement sonore de la ville par le haut, alors que peut-être que ce qu'il faut, c'est laisser les habitants s'emparer de la ville et s'approprier l'espace comme ils le souhaitent. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans certains quartiers, ou dans tous les quartiers, et dans certains, j'ai l'impression que c'est plus flagrant que d'autres. Ça me ramène à mon mémoire qui est travailler sur un espace populaire, un quartier populaire qui est celui de la Guillotière, et de voir comment la population va vraiment s'approprier l'espace par le son, parce que c'est aussi un enjeu de survie pour ces populations-là.
D'accord, mais bon, là, je vais revenir quand même un peu sur le sujet, excuse-moi, parce que là, on a peut-être dérivé, mais c'était pour moi une belle dérivation. Mais sur un point de vue moins drôle, comment on travaille sur des sound studies ? Que ça soit, que là, on fait de la cartographie, on fait de la quali, on fait de la quanti,
C'est l'histoire de ma vie, ça c'est...
C'est pile
ma problématique du moment. Alors, comment on travaille ? Alors, il y a un côté très quantitatif, que j'ai abordé tout à l'heure, c'est la question du bruit. C'est-à-dire qu'on va mettre en place... Par exemple, il y a Luc Mercher, géographe à l'ENS, qui a travaillé sur ça. On va mettre en place en fait, des systèmes de captation du son, notamment vers des grandes autoroutes, etc., pour mettre en place des cartes du bruit. Donc là, c'est vraiment... On calcule le nombre de décibels et après, on les... bah voilà, on crée un appelage géographique, ça devient plus rouge quand il y a beaucoup de bruit et de plus en plus vert. Enfin voilà, c'est vraiment de la représentation cartographique du son quantitatif. D'un point de vue qualitatif, c'est plus compliqué. Il y a des méthodes qui se sont mises en place. Alors bon, il y a tout ce qui concerne l'écoute, donc des écoutes flottantes ou un peu plus à partir de grilles, etc. On peut faire aussi des entretiens avec les habitants. On peut faire ce qui est assez intéressant, qui a été mis en place, pas spécialement en fait au début pour les études sur le son, mais qui sont assez intéressantes pour le son, ce sont les entretiens déambulatoires. C'est-à-dire qu'on se rend sur un parcours donné avec des personnes, et on leur demande de nous décrire l'espace environnant. Et ça, l'avantage de permettre aux personnes d'être en contact direct avec l'environnement sonore, parce qu'on s'est rendu compte, enfin on s'est rendu compte, les chercheurs se sont rendu compte que c'était difficile parfois de faire parler les gens sur le son, l'environnement sonore, parce que de fait c'est pas quelque chose auquel ils prêtent vraiment attention de manière consciente, et du coup c'est difficile d'en parler a posteriori sans être confronté directement aux faits. Et après, bon, il y a aussi d'autres choses qui ont été mises en place, mais plus sur les questions un peu de les approches multisensorielles en fait de l'espace public, soit le son, mais aussi l'odeur, etc., le toucher. C'est les baluchons multisensoriels qui a été mis en place en fait par le laboratoire Le Cresson à Grenoble, qui travaille sur ces questions-là. Et en fait, ils ont donné à des habitants des sacs, enfin, des petits baluchons avec un carnet, un appareil photo jetable, un petit enregistreur. Et je crois que c'est tout, en leur demandant voilà, de vivre avec ce baluchon constamment pendant quelques semaines et d'écrire leurs impressions, de s'enregistrer, d'enregistrer les sons qui leur étaient intéressants, de prendre des photos pour en fait essayer d'accéder à la perception intime de cet espace par les habitants. Donc voilà à peu près un aperçu des méthodes qu'on peut utiliser pour rapprocher le son.
Mais tu parlais pas de carte sonore à un moment ? Parce que tu as envoyé une carte sonore.
J'ai si envoyé une carte sonore, pardon.
Est-ce que tu veux qu'on l'écoute ?
Bah, si tu veux, ouais. Est-ce que tu veux que j'explique d'abord ce que c'est ou...
Je veux bien, oui, ce serait plus...
En fait, c'est des outils participatifs d'utilisation de la cartographie. C'est donc avec Internet. En fait, on propose aux gens d'enregistrer un son quelque part et de le géolocaliser. Et donc, ce qui permet après d'avoir un fond de carte, voilà, style Google Maps, et on clique sur les endroits et il y a le son qui surgit.
D'accord. Bah, on va lancer l'extrait que tu as envoyé.
Jérusalem.
Et donc, ce sont des bruits comme ça qui permettent en fait d'écrire un espace de façon sonore, parce que j'ai pas vraiment reconnu Jérusalem, là, je t'avoue. Hein, mais...
Voilà, et en fait, je pense qu'on entend bien justement les limites de ces outils-là avec les extraits que je viens de vous passer, parce que un enregistrement est complètement subjectif et va pas forcément être représentatif d'un espace, voire pas du tout de manière très compliquée. On peut pas, comme on prend une photo, avoir un point de vue idéal en fait en le son, parce que l'enregistrement c'est ça, c'est si on veut un son particulier, comme là on entendait les gouttes qui tombaient à Jérusalem, on va approcher le micro, mais du coup on perd tout l'environnement qu'il y a autour, et du coup ça a certes un intérêt radiophonique et presque musical, hein, ces extraits là c'est génial, on peut écouter ce qui se passe un peu partout sur la planète, Mais en termes de représentation, voilà, une carte est censée être représentée directement, que là, on devrait pouvoir entendre directement ce que c'est que ces espaces-là, et c'est un peu plus compliqué que prendre un enregistrement et le géolocaliser.
Et donc, puisque tu décides de parler de cette approche subjective, comment tu fais alors dans tes études, dans ton étude donc des ambiances de du quartier de la Guillotière, par exemple, pour essayer de retranscrire, on va dire, un paysage sonore de la Guillotière, si c'est subjectif et si on risque de se concentrer trop sur un point ou un autre?
Bon, après, il faut aussi partir de ce principe que c'est forcément subjectif. Enfin, la question de la subjectivité en sciences sociales, je crois que c'est bon, c'est acté. On sait que ce qu'on va faire, c'est subjectif. Après, voilà, la question est de produire un matériau scientifique un peu solide. Moi, je t'avoue que je compte pas créer une représentation cartographique de la Guillotière. Je compte essayer de montrer ces deux ou trois hypothèses que j'ai, c'est-à-dire montrer qu'il y a une manière d'agir dans l'espace sonore à la Guillotière qui est peut-être de l'ordre de l'identité pour s'approprier l'espace. Voilà, donc je ne vais pas représenter l'espace.
C'est-à-dire donc les questions d'identité pour s'approprier l'espace de manière sonore.
Ça, c'est-à-dire que... En ville, aujourd'hui, on sait que y a un phénomène qui s'appelle la gentrification, qui consiste en fait à expulser petit à petit les classes populaires des quartiers centraux de la ville. On sait qu'il y a des phénomènes de lutte contre ça. Donc bon, la gentrification, pour faire très vite, c'est voilà, au début les étudiants, après les artistes, après les bobos, ça revalorise un quartier. Il y a des travaux d'aménagement qui sont faits, les loyers montent et voilà, les classes populaires doivent partir plutôt en banlieue. Bref, on sait qu'il y a des phénomènes de lutte des populations historiques du coup de ces quartiers-là pour rester dans ces quartiers et s'y approprier. Et qui peuvent passer par le visuel, hein, ne serait-ce que, par exemple, les commerces ont leur importance dans ces questions-là. Donc il y a les commerces ethniques, par exemple, qui sont des commerces de proximité aussi à bas coût, qui vont être encore très présents. Il y a une manière de s'habiller aussi, il y a des tags, on peut imaginer mille... facteur visuel en fait pour s'approprier l'espace. Et moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait l'ambiance sonore change complètement si on se retrouve, pour donner l'exemple de Lyon, sur la presqu'île au niveau de Bellecour, on va dire, et dans le quartier de la Guillotière. L'ambiance sonore change et finalement c'est peut-être que l'ambiance sonore est porteuse de l'identité de la population qui habite le lieu. Et du coup, les habitants de la Guillotière, en fait, on les entend aussi, on les voit pas seulement.
On peut entendre ça tout de suite, si tu veux, puisque tu as envoyé deux sons, l'un venant de la presqu'île et l'autre venant de la Guillotière, si c'est pas merveilleux.
Donc ça, c'est la presqu'île. Et là, du coup, on est passé à la Guillotière.
Là, mon premier sentiment, c'est que les voix à la Guillotière sont plus graves. C'est plutôt des hommes qui sont autorisés à sortir. Il y a beaucoup plus de bruit de voiture, tandis qu'à Bellecour, on entend plutôt la sonnerie, le son des couverts qui clinquent, non?
Ouais, bon, après, bon, encore une fois, c'est difficile d'avoir comme ça en un enregistrement un côté vraiment représentatif, mais il y a un peu de ça. Les femmes pas autorisées, je sais pas, mais bon, effectivement, c'est quand même très masculin. ou même dans les cafés, etc. J'ai beau passer à chaque fois, je regarde, je trouve, je vois pas une fille. Oui, effectivement, on a les restaurants un peu plus chics, du coup, les bruits de couverts, les terrasses sur la presqu'île. Il n'y a pas ça dans la guillotière rue Paulbert, là où je travaille. Pour vous donner comme ça en vrac des idées qui me viennent, qui caractérisent un peu la guillotière, il y a par exemple des voitures qui passent avec de la musique très fort à l'intérieur, qui pour moi ça peut être une manière de débordement en fait de l'espace privé intime sur l'espace public, ou alors il y a les musiques qui arrivent de l'intérieur des magasins qui sont des musiques plutôt ethniques. Il y a aussi quelque chose d'assez flagrant rue Paulbert, c'est vraiment organisé comme la manière dont étaient organisées commercialement les villes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de la rue où c'est les boucheries, il y a 3 boucheries d'affilée qui se font face, et là en fait il y a les commerçants devant leur boutique qui des fois disent bonjour aux passants, les interpellent, donc il y a aussi il y a des gens qui s'interpellent, qui parlent un peu fort, on entend aussi parler d'autres langues que le français ou les langues occidentales, je pense à un peu là des langues arabes ou ethniques, je connais pas toutes les langues mais voilà, ce qui me vient en vrac un peu comme différence.
Tout à l'heure, tu parlais du fait de pouvoir de temps en temps se réapproprier la ville par se réapproprier le son, par exemple en faisant de la musique. Et là, tu viens de prendre un bel exemple, je trouve, en parlant de mettre la musique à fond les ballons, même si elle est dégueulasse, en plein milieu de la rue. Est-ce qu'il y a un moyen de lutte du son ? Et ça n'est absolument pas le côté gauchiste en moi qui remonte, hein, c'est...
J'aimerais beaucoup montrer ça. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de travaux qui ont été faits là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et je pense que je ne me suis pas encore penchée sur les travaux qui ont été faits, je pense sur les manifestations, mais je suis persuadée que dans les manifestations, la question du bruit est primordiale. Je suis sûre que ça a déjà été fait, je ne connais juste pas les références. Mais par exemple, pour fréquenter de temps en temps les manifestations, on voit que selon les parcours, ça change complètement la nature de la manif. Si on passe à côté d'un fleuve où il n'y a pas de réverb, etc., déjà les gens crient moins, de toute façon on entend moins, et une manif qui ne s'entend pas, ça marche pas, à moins que ce soit une marche blanche. Donc oui, je pense qu'il y a une question de lutte. Il y a, par exemple, encore, c'était quand ? Samedi dernier, il y avait un mariage marocain dans le quartier, où ils faisaient 3 fois le tour du quartier avec des musiciens, des tambours, etc. Si ça, c'est pas une manière de se dire on est là. Après, la lutte peut être inconsciente. Je pense que la lutte n'a pas besoin d'être consciente pour être qualifiée de lutte. Mais je pense que oui, il y a des enjeux de cet ordre-là.
En fait, ce serait reprendre l'adage de Paul Lafargue que une partie de la lutte des classes se fera par la fête.
Peut-être, pourquoi pas.
Bah en tout cas, je voulais te faire commenter, mais finalement, ça a un extrême et de Corbin, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire. Parce que, merci beaucoup, Maëlle, franchement, je trouvais ça passionnant. Si on a de nouveau envie de t'écouter sur les scènes se disent ou même sur la géographie, tu es le bienvenu à Sens.
Bah, merci de m'avoir invité, Arthur.
Je remercie la douce voix de Martin qui m'a accompagné pour le choix des extraits. Qui ont particulièrement bien été lus, je trouve. Et je devrais vous recommander de la bibliographie, ce serait Murray Schafer, que j'ai commencé grâce à Maë et que je trouve absolument passionnant, surtout que j'ai peu l'habitude d'écouter, de lire un musicien. Je vous recommande Alain Corbin, Les Cloches de la Terre, parce que Alain Corbin, c'est toujours très très plaisant à écouter, à lire. Et à écouter, je vous conseille peut-être d'écouter quelques sons de cloches en lisant Les Cloches de la Terre. Paysages sonores et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle, qui, à mon avis, peut parfois lier aussi la question de la lutte politique à la question sonore. Eh bien, c'était Sens. J'espère avoir donné un peu de sens à tout cela. Et j'annonce que la prochaine émission, c'est La Clé des Champs, générique. et je laisse la parole à Mathilde, Arthur et Malou pour la clé des chances sur la publicité.